Aujourd'hui, je vous présente mon entretien avec Karine Rosso, qui est professeure au département d'études littéraires, où je travaille aussi à l'UQAM. Au moment de notre entretien, Karine venait tout juste de publier « Entre l'île et la tortue » chez Triptych, qui est sorti au début de l'automne 2024. Moi, je sortais d'une grippe, donc toutes mes excuses, on l'entend un peu. Pendant la discussion, on a parlé de l'écriture de son dernier livre, on a parlé de l'écriture de « Mon ennemi Nelly », qui est paru en 2019, on a parlé de sa démarche par rapport à l'autofiction, on a parlé du travail de libraire de Karine avant d'être à l'université, de son rôle de cofondatrice à l'UGLION, on a parlé d'enseignement, d'université. La première question que je lui ai posée, c'est sur sa façon de travailler ses textes. Je lui ai demandé si c'était séparé pour elle l'université et la création littéraire.
Ah, pas du tout. Tout est mélangé tout le temps. J'ai longtemps pas eu de bureau. Je travaillais sur la table de la cuisine à la maison quand j'étais chargée de cours, puis que j'avais justement, j'étais libraire, puis en même temps, j'avais 1000 chapeaux. Donc, je me suis un peu habituée comme ça. La grande différence, c'est que, par exemple, mon ennemi Nelly, je l'ai écrit la nuit. J'attendais que tout le monde dorme, comme une maman, comme plusieurs mamans le font, et j'attendais que tout le monde dorme. Heureusement, ma fille se couchait tôt, là, quand même, je dois dire. Et puis, ben là, je commençais à travailler. Là, maintenant, je peux plus faire ça parce que c'est pas possible. Puis de toute façon, pour la santé, c'est pas souhaitable non plus. Donc, j'écris le jour, ce qui fait en sorte que j'écris beaucoup au bureau, j'écris beaucoup à l'université, et ça a vraiment changé ma façon d'écrire, mais je peux pas m'isoler. En tout cas, moi, je trouve pas comment m'isoler pour écrire de la fiction. Je suis même pas sûre que je trouve ça souhaitable. C'est-à-dire que j'ai tellement écrit dans les cafés, justement, sur la table de cuisine et tout, on dirait que ma façon d'écrire, c'est d'être dans le monde. Donc, je trouve ça à la limite normal d'écrire dans mon bureau entre deux étudiantes. Il y en a une qui vient à 11h, il y en a une à 13h. Puis là, j'ai comme un trou d'une heure. Puis hop, j'ouvre le document, puis je me plonge.
Ah ouais?
Oui, oui, je travaille comme ça. C'est comme une espèce de extrême multitask. C'est moi pour l'anglicisme. Non, mais c'est vraiment ça. Je suis comme multitâche. J'ai une amie qui me disait, « Oh, toi, Karine, t'es tellement focus. » J'étais comme, « Mais pas du tout. » Je suis le contraire d'une personne focus. C'est-à-dire que je fais 10 000 choses en même temps. Puis on dirait que c'est presque une philosophie de vie, là. Je veux dire, je fais ce que je peux. Après, je ne dis pas que je fais toutes les choses bien, là, mais je ne sais pas. Peut-être que justement, j'ai été travailleur autonome tellement longtemps avant d'être prof. J'ai eu 4-5 jobs en même temps. Donc, on dirait que je me suis habituée comme ça. Et puis, je répète, je trouve que la fiction, d'écrire de la fiction comme ça, comme dans le monde, avec ce rythme-là, on dirait que j'ai l'impression que mon écriture, elle est comme branchée sur mon époque. Parce que j'écris des fragments. Voilà, on dirait que l'écriture, parfois, elle est interrompue, puis des fois, c'est un long souffle. Vite, 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 parce que il y a quelqu'un qui s'en vient, j'ai une réunion après, j'ai un cours et tout ça. Donc, j'haïs pas ça que ça se sente dans l'écriture.
Puis, entre l'autorité, puis là, je dis autorité, mais entre guillemets, là, mais mettons, l'autorité de superviser des étudiants à la maîtrise au doc, l'autorité d'enseigner, puis la posture ou la persona, que t'empruntes, tu sais, que la narratrice représente, il y a une espèce de fluidité ou il y a une séparation nette?
Ah, c'est une bonne question. Non, je vois ça comme un spectre. non, mais c'est parce que c'est sûr qu'il faut que j'ai une certaine... j'adore pas l'autorité, là, puis j'essaie d'en avoir le moins possible, même dans mon enseignement, mais je comprends bien là, qu'il faut en avoir, là, ne serait-ce que pour avoir une légitimité, une crédibilité. Puis c'est aussi que les étudiants et étudiantes, ils veulent pas non plus qu'on doute tout le temps, puis c'est correct, là, tu sais, dans le sens qu'on n'est pas là pour douter. Moi, je suis quelqu'un qui doute tout le temps. Si je me mets à douter autant avec les personnes étudiantes devant moi, les pauvres, là, tu sais. Donc, j'essaie d'être, plus affirmative, plus assertive, puis en disant, bon, écoutez, moi, je pense que ça fonctionne moins, ça fonctionne mieux, et tout ça. Qu'est-ce que vous diriez de ça? Avez-vous lu ça? Donc, je suggère plusieurs choses. Puis voilà, puis d'avoir cette espèce de rapport d'échange. Mais oui, l'écriture, là, quand justement j'ouvre mon document, là, entre deux personnes étudiantes dans mon bureau, bien là, c'est le moment de la vulnérabilité totale. C'est le moment où je doute le plus, parce que je pense que ma façon d'être, à la base, elle se situe dans le doute. C'est très rare que je suis sûre de ce que je fais, que je suis sûre de ma parole, de mon écriture. J'aimerais ça, hein, je suis pas en train de faire l'apologie là, du doute, puis peut-être que ça va sonner faux, enfin, je sais pas, mais c'est ma façon d'être, faut que je l'assume.
Oui, mais il y a... Entre l'île et la tortue, les gens qui l'ont lu l'ont tous remarqué, là, c'est écrit au-dessus. Puis il y a quelque chose à la fois d'étonnant et de très contemporain, au sens de... C'est dans l'air du temps. Je pense qu'il y a eu des livres très intéressants dans les dernières années qui ont été écrits au-dessus, au vous. C'est pas tout à fait la même forme de deuxième personne, là, mais il y a eu Machina, hein, de Lula Carballo, qui utilise le vous un peu comme mécanisme narratif. Il y a La femme qui fuit, il y a Rick Chacour. Il y a eu beaucoup de. Mais le tu que toi, tu utilises, il est particulier, puis il y a un peu rapport avec la question que j'ai posée sur l'autorité, parce qu'il y a un peu une impression de distance avec soi-même, puis il y a une sévérité aussi dans cette personne qui s'adresse à toi, hein, dans ce rapport à soi. Je me demandais à quel moment c'est intervenu ce tu-là, puis est-ce que ce tu-là a un rapport avec l'espèce de grisaille universitaire que tu représentes beaucoup, qui était déjà dans Mon ennemi Nelly en 2019?
Oh mon Dieu, j'avais jamais vu les choses comme ça. On dirait que là, t'ouvres tout un monde là, dans ma tête. Comment, ah oui, c'est vrai, il y a peut-être un rapport, dans le fond, je ne l'avais jamais vu.
Est-ce que tu trouves qu'il y a une sévérité ou c'est moi qui...
Ah non, mais il y en a une, certainement, qui est apparue, je dirais, au fil de l'écriture. Alors là, il faut quand même que je revienne un peu en arrière pour dire que moi, le tu, c'est un peu mon dada. Je veux dire, je m'intéresse à ça depuis longtemps. Quand j'ai écrit Mon ennemi Nelly, c'était au tu. Et le tu était adressé à Nelly Arcand. Et donc, bon, il a fallu que je fasse des recherches, là, c'était dans le cadre de ma thèse, et plus je lisais, plus ça me passionnait, cette histoire-là du tu. Et en fait, c'est que j'ai fini par découvrir, là, à l'aide de toutes sortes d'auteurs, d'autrices, là, notamment Annie Richard, qui a écrit L'autofiction et les femmes, elle a tout un chapitre sur le tu. Et elle dit, c'est peut-être pas un hasard si dans l'autofiction, particulièrement l'autofiction écrite par des femmes, on retrouve beaucoup de tu, parce que c'est comme si les autrices embrassent la dimension interlocutoire là, de l'autofiction et vont chercher à la fois le lectorat, parce que quand on lit au tu, et qu'on est un lecteur, une lectrice, on peut prendre le tu pour une adresse à soi. C'est-à-dire, on peut lire, on a l'impression que l'écriture nous est adressée. Et donc, il y a quelque chose qui vient nous chercher. Et dans le cas, par exemple, de Nelly Arcand, dans Folle, et c'est beaucoup le cas dans l'autofiction écrite par des femmes, c'est que Nelly Arcand, elle écrit au tu à son ex. Mm-hmm. Et donc là, c'est toute une performance là, qui ravive la colère, mais elle n'est pas la seule. Il y a Martine Delvaux, les cascadeurs n'ont pas droit au doublage. Bon, il y en a plein. Et donc, en faisant des recherches, là, j'étais là, oh mon Dieu, c'est dommage intéressant et tout. Mais, et là, je reviens encore plus en arrière, en fait, le tu, le vous, là, tu parlais du vous de Lula Carballo, on l'oublie, mais le vous était très présent dans le nouveau roman. Chez Duras, chez Sarraute, chez Michel Butor, chez Georges Perec. Et moi, Entre l'île et la tortue, je me suis plus basée sur ce tu, ou enfin cette adresse à la deuxième personne, là, écrite dans le nouveau roman, c'était plus au vous. Je me suis plus basée sur cette adresse-là. C'est-à-dire que dans L'homme qui dort de Georges Perec, il écrit au tu à soi-même. C'est un narrateur qui écrit au narrateur. Enfin, bon, c'est un peu complexe. Et ça fait effectivement ce que tu viens de mentionner. Ça fait une distance de soi à soi que je trouvais intéressante, moi. Donc, après avoir écrit Mon ennemi Nelly dans cette forme un peu, justement, qui interpelle, là, du tu, Anneli Arcand et tout, puis qui est très utilisé en autofiction. J'avais envie d'avoir cette distance de soi à soi dans, entre l'île et la tortue. Et donc, là, moi, je commence en disant, ah, ben pourquoi pas, t'sais, justement, c'est un peu mon dada, puis bon, commençons comme ça. Sauf que je me suis fait prendre, parce qu'effectivement, cette voix-là au tu, les rares fois où on se parle au-dessus à soi-même, pour les personnes qui se parlent au-dessus, parce que moi, j'ai découvert qu'il y a des personnes qui ne se parlent jamais au-dessus dans leur tête. Il y a quand même beaucoup de gens qui le font. Mais moi, quand je dis, ben voyons, Karine, pourquoi tu as dit ça? Oh non, t'aurais jamais... Donc, quand je m'adresse à moi au-dessus, c'est souvent pour me faire des reproches. C'est souvent, justement, comme tu dis, une voix très sévère qui apparaît. Et qui est peut-être, bon, le discours social intériorisé, qui est peut-être, bon, les psychanalystes diraient une sorte de surmoi, hein, qui est là, qui me juge, cet œil extérieur à moi, mais qui est intériorisé, en fait. Et donc, plus j'écrivais entre l'île et la tortue, plus je me rendais compte, il fallait que je l'assume à un moment donné, que ce tu-là était sévère. Donc, il y a certains passages où je vais même jusqu'à dire, ben oui, tu es partie, pauvre petite. Et donc là, j'appuie en disant, tant qu'être sévère avec moi-même, je vais l'être. Cela dit, je pense que dans mon ennemi Nelly, je le suis aussi sévère avec moi-même. Je pense que l'autofiction, à moi, me sert à ça. J'ai pas répondu à ta question par rapport à l'université. Hein. J'ai-tu fait un long prénom?
Non, t'as répondu. De toute façon, on a le temps d'en parler de l'université. puis j'allais dire, on va avoir l'air de deux vrais nerds, là, mais comme récemment, j'ai relu L'homme qui dort de Georges Perec. C'est un total hasard. Là, et ça, je savais pas que ça avait... Je pensais pas que tu allais mentionner ça. Puis c'est drôle parce que j'avais pas vu du tout le parallèle avec l'autofiction, mais pas du tout. Puis pour moi, il y avait tellement une distance comme d'interrogation. Mm-hmm. Quelque chose de... Tu sais, comme de regarder quelqu'un d'autre être agi avec perplexité, hein, avec une sorte de avec une question constamment dans le regard que je trouvais vraiment intéressante. Puis il y a ça, en effet, dans ton dernier livre. Mais dans Mon ennemi, Nelly, il y avait quelque chose de... je sais pas pourquoi, moi, il y avait de la magie dans ce livre-là. Il y avait comme... Le personnage est un peu hanté. Mm-hmm. J'avais l'impression aussi d'une université... où il y avait comme un mauvais sort, tu sais, qui avait rapport avec Nelly. Alors que là, à cause de ce changement-là de position, parce que c'est aussi le livre de ton embauche à l'université.
Oui.
Tu le dis avec une petite voix, mais c'est vrai, puis c'est un changement de position. Puis je parlais de la position d'autorité, mais c'est aussi la position d'un espèce de deuil par rapport aux morceaux de récits de voyage qui sont intégrés. Donc, juste pour placer les gens, là, la narratrice essaie, en fait... se pose la question de est-ce que peut reprendre un récit de voyage? Elle a l'ambition, elle aurait l'envie, elle aurait le désir de reprendre l'écriture d'un récit de voyage commencé des années plus tôt en lien avec un grand voyage qu'elle a fait. Puis cette espèce de retour-là vers l'écriture du voyage se fait pas, advient pas. Puis il y a une espèce de deuil, mais les pages... Enfin, moi, j'ai ressenti un deuil.
C'est vrai qu'il y en a un.
J'ai ressenti une espèce de deuil, mais aussi la joie de l'écriture de ce voyage-là, parce qu'on a accès aux pages. Puis elles sont...
Au jeu.
Puis elles sont vraiment... C'est dur écrire du récit de voyage. Puis je me disais, mon Dieu, c'est bon. On aurait envie aussi... J'ai adoré le livre en entier, mais on a envie aussi de continuer le livre de voyage.
Ah, c'est drôle que tu me dises ça, parce que je l'ai fait lire à quelques personnes avant de l'envoyer à mon éditeur qui est Nicolas Dawson. J'ai une amie qui s'appelle Olivia Tapiero, pour ne pas la nommer, qui m'a dit « Ah, écoute, c'est bon ton livre, tout ça, mais tu sais, les nouvelles, je suis pas sûre. » Elle dit « Essaye sans. » T'sais, essaye d'envoyer le manuscrit sans les nouvelles. Puis j'y ai vraiment pensé. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ça vient interrompre le rythme que j'installe de peine et de misère, justement, avec le tu, qui est quand même... Puis la phrase longue, puis la ponctuation et tout ça. Puis c'est vrai que là, on est dans toute autre chose. Puis j'ai dit, ah, elle a raison et tout. Donc j'ai vraiment considéré très, très sérieusement l'option de... de les enlever. Puis finalement, je suis très contente de les avoir gardés parce que il y a plusieurs personnes, bon, le tout, tu me dis que tu les as particulièrement appréciés, mais il y a aussi des gens qui me disent, oh mon Dieu, à chaque fois qu'on arrivait à une nouvelle, c'est comme si on prend une pause, tu sais, ça fait comme, oh, ça respire, tu sais, puis elles arrivent au bon moment, c'est ce qu'on me dit, là, tu sais, dans ça. Pourquoi je les ai gardés aussi, c'est que, du coup, ça enlevait un peu la structure du livre parce que entre chaque nouvelle, il y a donc quatre parties, il y a trois nouvelles. Mm-hmm. Ça fait qu'il y a quatre parties et tout est pensé pour que il y ait comme une courbe narrative aussi. Parce qu'il faut savoir que les fragments n'ont pas été écrits dans l'ordre. Hein.
OK.
Tu sais, tantôt, je parlais que justement, là, j'écris entre deux rendez-vous, j'écris le soir sur une napkin dans un café. Tu sais, j'écris ouais. vraiment comme ça. Et donc, j'ai écrit plein de fragments. Et c'est ensuite que je les ai mis en ordre pour faire cette espèce de courbe narrative. Et donc, les nouvelles me servaient de structure. Là, je suis peut-être loin de ta question, encore une fois.
Non, t'es pas loin de ma question. C'est tellement intéressant parce que moi, comme une lectrice naïve, je me disais, ah, mais il y a un manuscrit de centaines de pages qui existe. Un récit de voyage très long auquel j'ai pas accès, mais qui dort dans un coffre et qui un jour.
J'aimerais ça que ce soit vrai. J'aimerais tellement ça que ce soit vrai. Mais non, il n'y a pas de recueil. Et on dirait que c'est comme, c'est comme un recueil fantôme. Tu sais, c'est comme je suis obligée d'écrire autour. Puis c'est très drôle parce que mon ennemie Nelly, en fait, ça commence. La narratrice, elle vient de revenir d'un long voyage. Elle a encore les bottes de montagne pleines de poussière. Ouais. Et donc, c'est l'histoire du retour. entre l'île et la tortue, là, les passages, les nouvelles racontent, dans le fond, l'histoire du départ. Mais c'est quand même.
Tu dis, j'ai écrit l'histoire du retour avant l'histoire du départ.
Oui, je le dis à un moment parce que, en fait, c'est ça. C'est que j'ai l'impression d'être condamnée à écrire autour de ce voyage-là. C'est 4 ans de ma vie. J'étais très, très, très jeune.
J'avais quel âge?
C'est de 19, puis je suis revenue vivre définitivement à Montréal, puis commencer mon bac en littérature. J'avais 24 ans. Donc, je suis revenue quelques mois. Au bout de 2 ans, je suis repartie. Mais c'est ça, en gros, c'est 4 ans de ma vie. Et puis, voilà, j'étais... moi, aujourd'hui, je me trouve tellement... Je peux pas croire que j'ai fait ça aussi jeune. Aujourd'hui, à l'époque, je me trouvais tellement vieille et mature et tout à fait prête à aller... je veux dire, si ma fille fait ça aujourd'hui, écoute, je m'arrache les cheveux. Là, je prie pour qu'elle ne le fasse pas. Mais bon, voilà, je l'ai fait. Puis on dirait que c'est comme une espèce de légende familiale. On dirait que j'y reviens. Ouais, c'est ça. C'est devenu comme une espèce de centre autour duquel je gravite un peu dans mes pensées.
Puis est-ce que tu avais écrit assez à l'époque pour pouvoir quand même retourner vers un matériau que je fantasme peut-être en ce moment?
Oui, il y a quand même un matériau, mais je ne suis pas complètement retournée. Alors, c'est ça, dans le roman, elle a le projet de le faire. Elle n'a jamais vraiment la force complète, la narratrice, d'aller ouvrir le coffre en question totalement, là, c'est-à-dire elle fait en partie. Puis, ben c'est un peu le reflet de ce qui m'arrive, c'est-à-dire que j'ai déterré certaines choses, mais j'ai pas tout déterré, puis j'ai des cahiers. Peut-être qu'un jour, écoute, c'est ça, t'sais.
Puis, OK, j'ai deux questions, puis elles ont pas rapport. Je vais essayer d'y aller dans l'ordre, puis je vais essayer de pas les oublier. La première, c'est, tu sais, moi, je te côtoie comme collègue, puis t'es quelqu'un, joyeuse, souriante, pleine de vie, hyper aussi généreuse avec les étudiantes, les étudiants. Puis l'université est pas tout à fait représentée comme un espace, tu sais, de joie et de d'allégresse. C'est très gris, l'université. Je me demandais, tu sais, est-ce que ton rapport à l'université, tu le vois évoluer? Je pense que c'est sain d'être critique par rapport à l'université. Je pense que si tu es quelqu'un qui serait dans la joie pure par rapport à l'université, je serais comme, que se passe-t-il? Mais as-tu l'impression qu'en étant prof, Je sais pas si c'est une vraie question, tu sais, ou si c'est comme un souhait que c'est un peu optimiste et naïf que. Mais est-ce que tu as l'impression que ça peut changer ton rapport à l'université? Est-ce qu'il y a encore cette grisaille-là autour de ces bâtiments-là, ces corridors-là?
Ah, écoute, tantôt je venais au studio, je venais te voir, puis j'ai traversé les nombreux couloirs souterrains. qui sont à l'UQAM. Et j'ai croisé des étudiants et étudiantes que je connais pas, mais qui riaient, qui parlaient. Puis je suis encore touchée. Ça m'émeut encore de faire partie de ce monde-là. Cela dit, je suis extrêmement critique, effectivement. Dans mon ennemi Nelly, j'ai beaucoup exploré la façon dont l'université police les corps. Mm-hmm. Moi, j'étais une des seules étudiantes racisées au département d'études littéraires de l'UQAM. Mon ennemi Nelly ne porte pas là-dessus, mais c'est quand même là comme question. Notamment, elle va dire, la narratrice, que les seules personnes qui ont sa couleur de peau, c'est les agents de sécurité ou les travailleurs, travailleuses domestiques qui viennent laver l'université quand il n'y a plus personne le soir. Pour l'anecdote, parce que c'est quand même assez rigolo, c'est quand même une vision assez triste, assez grise, là, comme tu dis, de l'université que je dépeins. Mais l'anecdote rigolote, c'est que quand j'ai eu le poste, j'ai une amie qui me dit, en tout cas, j'espère que ça va bien aller, puis que ça va pas te perdre dans les dédales, tu vas pas te perdre dans les doubles souterrains et tout ça, parce que c'était évidemment en lien avec Nelly Arcand qui a étudié ici aussi, qui étudiait au même département où moi j'étudiais. Mais bon, évidemment, je ne l'ai jamais croisée, on n'est pas tout à fait de la même génération, puis tout ça, mais j'entendais parler d'elle et tout, et c'était comme un clin d'œil, parce que Nelly était très critique aussi de cette université qui côtoie les pawn shops, puis qui côtoie aussi les boutiques d'accessoires sexuels, des danseuses, c'est ça, les bars de danseuses et tout ça. Ça, c'est Nelly qui était très critique de ça, donc je reprends plusieurs de ces termes. Tout ça pour dire que, oui, le rapport évolue. Le rapport à l'université, il évolue. Moi, ça reste, pour les raisons que je viens d'évoquer, un endroit où j'ai vécu certaines violences, toujours liées au corps, je dirais, donc comme femme, puis comme femme non blanche. Mais évidemment, c'est pas tout à fait la même chose comme professeur, même s'il y a quand même des violences qui continuent, là. Mais oui, mon rapport évolue, parce qu'après, comme tu dis, après mon doctorat, j'ai eu cette période-là qui est la période, le gros du roman Entre l'île et la tortue, puisque l'embauche arrive à la fin. Oui. Mais le gros du bouquin, c'est après le doc. C'est quand t'as 4-5 jobs, quand t'es chargé de cours, mais t'es extrêmement précaire. Moi, je vivais en coop. Tout le monde sait, j'étais libraire à la librairie Le Guélial, mais je travaillais dans des revues. Mon Dieu, que j'ai fait des affaires. Et j'essayais d'écrire à travers tout ça la nuit. Mon rapport à l'université est devenu à ce moment-là un rapport ressentimiste. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'avais un certain ressentiment envers l'université. J'avais tellement travaillé, tellement écrit de livres, j'avais publié, j'avais donné des cours. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, pourquoi il n'y a pas de... Et donc, il y a effectivement un deuil. C'est à ce moment-là, moi, j'ai fait le deuil de l'université. Le poste est arrivé quand j'y croyais plus. Mm-hmm. J'y croyais plus. J'ai appliqué au poste. C'est une étudiante qui m'a écrit, qui m'a dit, puis ça m'a beaucoup touchée. Elle m'a dit, on a vu qu'il y avait un poste en études littéraires. On aimerait ça que ce soit vous. Ça m'a vraiment touchée, que j'en parle, puis je suis émue.
Mais je comprends.
Ça m'a vraiment touchée, puis là, j'ai comme fait, ouais. Parce que moi, j'appliquais plus.
Je comprends.
J'avais des amis qui appliquaient, il y avait des postes en études littéraires à Vancouver. Tu vois, moi, j'appliquais plus. C'était fini, j'avais fait mon deuil, puis j'étais comme, je vais faire d'autres choses, là, tu sais, ça suffit. Puis là, cette étudiante-là, elle m'a touchée, puis j'ai comme fait, OK. Et donc, quand j'ai contacté les gens pour m'écrire les lettres de recommandation, parce que les fameuses lettres, ça prend des lettres, tout ça, j'ai dit aux trois personnes, c'est la dernière. que je te demande. T'sais, c'est la dernière fois que je fais l'exercice. Déjà, ça faisait 2-3 ans que je ne le faisais pas. Peut-être 1-2 ans que je ne le faisais pas. Puis j'ai dit, regarde, c'est ça, je vais essayer une dernière fois. Puis j'ai même dit à mon chum, regarde, parce que j'ai été appelée à la première entrevue. Puis même après la première entrevue, je n'y croyais pas. Quand on m'a appelée pour la deuxième entrevue, j'ai dit, hey, c'est le fun, je vais pouvoir... accrocher mes patins, c'est l'expression que j'ai utilisée. Je dis, je vais pouvoir accrocher mes patins en disant que j'ai fait le podium. J'étais comme, je vais pouvoir arrêter d'appliquer en disant, hey, je me suis rendue à la deuxième entrevue, j'ai fait de la shortlist, là, mettons. Ouais. Fait, à chaque étape, j'y croyais pas. Et finalement, quand le directeur qui était Alexis Lucier à l'époque, je le nomme pas dans le livre, mais là, je vais en profiter pour le nommer, il m'appelle pour me dire, écoute, t'es embauchée. Ben, moi, je m'effondre sur le plancher de la cuisine, je suis comme, tu me fucking... Je sais pas, j'ai-tu le droit de sacrer dans
ouais.
le podcast?
Ben ouais, tu peux.
J'ai comme, tu me niaises, c'est pas possible. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc, il y a quand même, je mentirais en disant que ça n'a pas réparé quelque chose, tu sais, que finalement, cette embauche-là n'a pas réparé l'espèce de deuil, puis peut-être même le ressentiment que j'avais, que je ne voulais pas avoir, hein, mais que je pense que j'avais, oui, quand même. Puis que beaucoup de gens ont, parce qu'il y en a peu de postes. Et c'est donc très dur à porter aussi. Je veux dire, là, je ne vais pas me plaindre, là, hein, on ne se plaint pas, mais quand même, c'est sûr qu'une fois qu'on passe de l'autre côté, bien là, il faut accepter que, ben voilà, là, on est peut-être la cible aussi là, de se rassurer. Tu sais, pourquoi elle? Pourquoi? Ben, évidemment, il y a tellement de gens qui sont plus qualifiés que moi. Tu sais, je veux dire, on est qualifiés, là, mais moi, je suis entourée de gens qui ont des docs, qui ont des postdocs, je veux dire, effectivement.
Oui, de plein de gens qui auraient les compétences, qui feraient un excellent travail. Puis l'université est un espace où on peut être critique, mais c'est aussi à double tranchant. Je pense que dans ta position, puis là, je sors un petit peu là, de ta démarche d'écriture, mais il y a beaucoup de pression à beaucoup de niveaux, je trouve, qui viennent avec les postes comme le tien.
Ah ben écoute, c'est quand même pas moi qui va dire qu'il n'y a pas de pression, là, c'est sûr. Puis bien sûr qu'il y en a parce qu'il y a énormément de besoins, en fait.
Ouais,
c'est ça aussi. Puis en études littéraires, il y en a plein, là, t'sais, de nouvelles arrivantes qui veulent écrire. Il y a des personnes, tu sais, à l'université, à l'UQAM ici, il y a plein de personnes qui proviennent de partout dans le monde. Mais en études littéraires, c'est quand même assez homogène. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de besoins. Fait que oui, ça vient avec une certaine pression, ça vient avec une certaine responsabilité, puis en même temps, ben ça vient avec, avec un certain bonheur là, aussi d'être utile, tu sais, voilà. Oui, tu sais, j'arrive avec des objets de recherche, avec des choses souvent qui, comment dire, sont rafraîchissantes là, pour plein de gens. Là, j'arrivais avec des nouvelles, avec des nouvelles façons de voir la littérature québécoise, parce que je suis une québéciste aussi,
oui.
Par ailleurs, qui est très drôle. Là. Mais donc, j'aborde la littérature québécoise. Cette session-ci, par exemple, j'enseigne la littérature des femmes au Québec. Mais, donc, hier, je recevais, par exemple, Marie-Céliagne dans mon cours. Donc, j'arrive avec des nouvelles propositions. Mm-hmm. Ah, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, de nouvelles propositions. Qui sont bien accueillis, mais c'est sûr que, j'ai écrit un texte dernièrement là, qui n'est pas encore paru, mais sur le corps encore à l'université, là, j'avais encore des choses à dire à ce propos. Et puis, c'est-à-dire que dans le texte, je déplie cette question-là. Parce que je trouve que c'est pas toujours facile non plus d'enseigner ce que j'enseigne avec le corps que j'ai. C'est-à-dire que, effectivement, quand j'enseigne le Black féminisme ou quand j'enseigne Lauriane Saldo ou quand j'enseigne, j'ai beau essayer d'avoir l'air neutre puis d'essayer d'enseigner ces choses-là ou le féminisme décolonial, je veux pas, c'est écrit là, sur ma peau, là, c'est écrit sur mon visage que je veux pas, je suis d'un côté là, de la barre. Que je ne suis pas tout à fait neutre. Donc, il y a certaines choses qui sont plus difficiles pour moi à enseigner, où je me prépare plus, en tout cas.
Tu te prépares plus parce que Les étudiants aiment vraiment beaucoup tes cours parce qu'il y a des critiques, parce que...
Bien, parce que j'ai peur qu'il y en ait ou parce que on dirait que je tiens à parer les coups, à essayer de...
Est-ce que c'est aussi... puis là, j'anticipe peut-être des choses qui n'existent pas, là, puis c'est peut-être mon fond paranoïaque, mais est-ce que c'est aussi pour parer des coups qui existaient peut-être plus avant? Tu sais, de justifier très, très fortement tout cet appareil théorique-là, puis sa validité, puis sa portée, pour pas dire, mais c'est juste parce que je suis moi, tu sais.
Oui, je pense qu'il y a, tu vois, juste à dire que je pense qu'il y a des traces, effectivement, de l'expérience là, que j'ai mm-hmm. eue pendant 10-12 ans avant d'être prof. Puis, bien, avant, j'enseignais ces choses-là aussi comme chargée de cours. Donc, j'étais très précaire, par exemple, à l'Université de Sherbrooke, ils regardent vraiment les évaluations d'enseignement à la loupe là, pour voir si on te donne une deuxième, une troisième charge de cours. Donc, tu sais, qu'est-ce que les étudiants ont dit et tout. Et moi, j'enseigne toujours des questions, pas toujours, mais disons très souvent des questions controversées mm-hmm. ou enfin, tu sais, c'est ça. Ça fait partie des choses que j'enseigne. Donc oui, j'ai tendance à vraiment bien me préparer puis à essayer de lire beaucoup autour de ce que j'enseigne. Comme ça, s'il y a des questions qui viennent et tout, je les ai vues venir, je suis préparée puis je peux y aller. Et puis, ben j'avais cette peur qui vient de ma soutenance, qui vient du mémoire, qui vient de toute mon expérience universitaire. De dire, OK, ben je dois être capable de justifier théoriquement peut-être un peu plus parce que je porte la marque aussi sur mon corps, mais ça pourrait être une autre marque, hein, ça pourrait être un accent que j'ai. Il y en a d'autres qui portent d'autres marques. Là, si vous...
Tu parles de ta soutenance parce que ouais. Ta soutenance, ça avait été un moment qui avait été difficile sur ce plan-là.
Ah, ma soutenance a été... Non, ça s'est bien passé. Ça s'est somme toute bien passé. Mais disons que les rapports n'étaient pas dithyrambiques. Là, t'sais. Donc moi, là, j'étais préparée comme pour aller à la guerre. Là, t'sais. Parce que j'arrivais avec mon ennemi Nelly, qui était une partie de ma thèse. Et puis, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? T'sais, l'œuvre de Nelly Arcan, qu'est-ce que vous faites de tout ça et tout ça? Puis moi, j'arrivais avec un t'sais, puis il a fallu que je parle. Alors là, c'est un bon exemple. Tu vois, tu me fais penser. La première question de ma soutenance, c'était un professeur que je ne nommerai pas à l'Université de Sherbrooke qui m'a demandé pourquoi j'utilisais le mot « racisé ». On est en 2018. Et en 2018, racisé n'est pas tout à fait rentré dans l'usage encore. Et moi, tu comprends-tu à quel point je suis préparée là, pour y répondre ça? Ben, alors voici, c'est un mot qui vient de telle personne théoricienne. Moi, je décide de l'utiliser. Oui, j'aurais pu utiliser tel autre terme et tout. Donc, c'était la première question de ma soutenance. Parce que moi, je disais que je regardais l'œuvre de Nelly Arcan avec un regard racisé. Je disais ça.
Je vais revenir sur la question. Tu as parlé de sujets controversés. T'es critique par rapport à plein de choses. T'as travaillé dans des revues, tu évolues dans le milieu littéraire. T'es pas quelqu'un de conflictuel, mais tu travailles dans des zones où est-ce qu'il y a du conflit, il y a de la mésentente. Comment tu vis les réseaux sociaux? Comment tu vis les débats du milieu littéraire? Comment tu vis les conflits qui sont... Moi, à mon avis, c'est bien là, qu'il y ait des conflits, mais qui ne sont pas toujours faciles sur le plan à la fois personnel et théorique et littéraire.
C'est très paradoxal parce que, en réalité, moi, ma façon de gérer le conflit, c'est beaucoup en coulisses. C'est-à-dire que je ne prends pas nécessairement position toujours publiquement, encore moins sur les réseaux sociaux, où je ne trouve vraiment pas que c'est une plateforme là, pour le faire. Par contre, j'écris sur Messenger. Tu sais, s'il y a une polémique, là, inquiète-toi pas, je vais t'écrire. Sur Messenger en disant « Hey, t'es-tu correct? Ça va-tu? Hey, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que t'as dit et tout ça. » Donc, je fais beaucoup de travail de coulisses, c'est-à-dire que je vais aller parler à chaque personne une à une. Et j'ai beaucoup travaillé en équipe dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé en collectif et je fonctionne aussi beaucoup comme ça. À aller dire « Écoute, là, on peut pas nécessairement en parler en réunion, mais on va aller manger, toi puis moi, mardi. Tu veux-tu aller manger? Ou viens à la maison et tout. » Et donc là, je fais comme du travail, encore une fois, autour. Ça a toujours été ma façon de fonctionner. Il y a des gens qui sont beaucoup plus frontaux là, que moi. Et puis, je les les observe, je les admire. Parfois, je leur écris aussi en privé en disant hey, « Écoute, fais attention à toi, là, parce que justement, à tellement me tenir dans les coulisses, je les vois, les coulisses des gens qui paraissent tellement sûrs d'eux-mêmes, puis qui font des critiques, des grandes critiques publiques, et tous ces gens-là, très souvent, en payent le coût, c'est-à-dire qu'il y a un coût, ils en payent le prix. Ensuite, souvent au niveau de la santé, au niveau interpersonnel et tout. Donc, je suis admirative. Hier, je l'ai dit à Marie-Célie Agnan, donc qui est venue dans mon cours. Je lui ai dit, tu sais, ça force l'admiration. Tu sais, je te regarde, je dirais, je t'admire. Je lui ai dit, moi, je suis tellement plus conciliatrice. Je pense être l'être plus dans ma façon d'être. Cela dit, ça ne veut pas dire que je n'ai pas mauvais caractère. j'ai mauvais caractère aussi, mais je pense que... Ah, c'est des grandes questions, Charlotte, parce que je me demande des fois si c'est pas lié à mon statut de métisse, parce que, tu sais, les métisses, historiquement, ont été un peu les conciliateurs, les conciliatrices, là, entre... C'est-à-dire, moi, je suis pas blanche, mais je suis pas noire non plus, hein, c'est ça aussi la question. Donc, je suis dans aucun des deux groupes, là, reçue comme étant une aimante, puis c'est bien correct, puis c'est bien sûr, évidemment, là, je tiens pas à l'être non plus. Mais disons que la position des métisses, historiquement, sur le continent, a été particulière, et puis que ce soit sur le continent africain aussi, hein, c'est-à-dire que moi, mon père est blanc, hein, donc ça fait que ben, je comprends bien le point de vue des Blancs. Ouais. J'ai grandi avec ce point de vue-là, et j'ai choisi. En fait, je pense qu'à un moment, ça devient un choix. Moi, j'ai choisi à un moment que je fais le pari que les Blanches pouvaient être nos alliés. J'ai fait ce choix-là en disant, moi, je vais travailler avec les personnes blanches. À partir du moment où j'ai fait ce choix-là, ben, il faut que je l'assume. Donc, il faut que je prenne le temps parfois d'expliquer. Et puis, c'est ce qu'on me reproche aussi peut-être des fois à l'intérieur de ma communauté ou à l'intérieur des personnes racisées qui disent, mais on n'a pas de temps là, pour leur expliquer aux Blancs. Je veux dire, il faut qu'on passe à d'autres. Puis, je comprends cette position-là aussi, ce qui n'est pas la mienne, mais je la comprends aussi.
Mais dans Entre l'île et la tortue, il y a un passage que j'ai eu vraiment beaucoup de misère à retrouver ce matin, mais j'ai fini par le retrouver, où tu parles de ton père, puis tu parles des radios de droite.
Oui!
Ah, ça, c'est un passage qui m'a marqué.
Ah oui?
Ouais, tu dis... Il y a longtemps que tu as renoncé à ta vision de droite, les voix de la radio que tu écoutais dans le taxi de ton père, celles d'André Arthur, de Pierre Pascoe, de Gilles Proulx, de Tex Lecor. Tu les as enterrées au plus profond de toi. Puis à la fin, on passe du « tu » au « on ». On n'est pas des lâches, on donnerait sa vie pour sauver un enfant de la noyade, mais les fainéants, fainéantes, les intellectuels qui croient qu'on peut vivre sans se salir les mains, ça non, on refuse, on se relève les manches. Puis là, tu continues. C'est un passage qui m'a marqué. Tu dis c'est une partie de toi qui était peut-être pas connue. Hein? Puis il y a comme un... Mais tu parlais là, d'une capacité à travailler avec des gens qui ont une position très différente de la tienne, mais là, on est dans un... Je sais pas, une connaissance peut-être intime ou juste une... Je sais pas si c'est compréhension.
Ah, je suis contente que tu aies relevé ce passage-là. Il y a pas beaucoup de monde qui l'ont relevé. Mais moi aussi, je trouve que c'est un passage important parce que c'est comme si là, je fais l'aveu parce que, bon, il y a beaucoup de questions de radio. Puis d'ailleurs, je suis contente de faire le podcast avec toi parce que on se rejoint là-dessus. Moi, quand j'ai lu Jardin Radio, j'étais là, mon Dieu, on a comme le même lien avec la radio. Moi aussi, j'ai été malade. La radio est venue comme... a servi de lien avec le monde extérieur, disons, pour le dire comme ça. Mais mon premier lien avec la radio, c'est avec la radio de droite de Montréal. Donc, dans le taxi de mon père, je disais que mon père est blanc, mais mon père est aussi chauffeur de taxi, ce qui va pas toujours ensemble dans l'imaginaire, parfois très cliché, là. Mais donc, j'ai grandi dans un taxi, et puis on écoutait la radio de droite. droite. Et donc, toute ma formation politique, il y avait énormément de conversations politiques à la maison, mais ma formation politique, elle est d'abord à droite. Et ça, faut le savoir quand on me connaît, parce que j'ai quand même, j'ai quand même fait un virage vers la gauche, pour ne pas dire vers l'extrême gauche. Là, je m'en vante pas, mais disons que quand même, j'ai pas juste fait un petit virage. Et ça, c'est vraiment de l'ordre de la honte du transfuge, là. Ça, c'est vraiment de ce côté-là que je le mets. C'est-à-dire que c'était pas évident pour moi d'admettre ça, et c'est les personnes qui me connaissent depuis l'enfance qui le savent, parce que je répétais des choses qu'on disait. Alors, parfois, mon père avait raison. Là, je le nomme quelquefois dans le livre en disant que, tu sais, par exemple, durant la crise d'Oka, je pense que je suis d'accord avec ce qu'il disait à l'époque, comme quoi c'est nous qui sommes chez eux, c'est ce que disait mon père à l'époque. Bon, je le répétais, je serais capable de le répéter aujourd'hui, peut-être autrement, mais enfin, je suis quand même d'accord avec lui. Mais il y a des choses qui, pour moi, sont inadmissibles maintenant, que des choses que je croyais, que je disais. Donc, c'est ça. Mon père est blanc, oui, mais vient d'une culture ouvrière, très dure envers les intellectuels, beaucoup de mépris pour les gens qui se salissent pas les mains, qui parlent comme ça. Puis c'est ça, hein, quand on change de milieu social, puis c'est accepter cette honte-là. Évidemment qu'il y a une grande partie de moi qui en est fière, là, mais il y a quand même une partie de moi qui se sent encore coupable.
Plutôt, j'ai dit, ah, il y a deux questions que je veux te poser, je veux pas oublier la deuxième. Puis la deuxième, ça a rapport avec l'autofiction, puis ça a rapport avec ce que tu viens de dire. Tu parles de la honte du transfuge de classe. C'est un livre, Entre l'île et la tortue, où est-ce que tu parles clairement de mobilité sociale, de classe sociale. Puis t'es quelqu'un, puis c'est vrai dans tous tes textes, c'est quelqu'un qui est... la narratrice est quelqu'un qui est affecté. C'est quelqu'un qui est poreux, puis qui laisse, hein, ce qui se passe dans le monde l'affecter. Fait que toutes les crises sociales, hein, traversent la narratrice. Mais en même temps, tu as choisi de pas parler de Entre l'île et la tortue publiquement, de pas le classer comme l'œuvre d'une transfuge de classe. C'est pas comme ça que tu l'as brandé. Puis j'imagine que c'est très délibéré comme...
Mais tu sais, tantôt j'ai utilisé le terme transfuge, mais c'est pas un terme que moi j'utilise. Je m'intéresse à la question, là, un peu plus sérieusement. On va organiser un colloque, Michel Lacroix et moi, en 2025 là-dessus. Je m'intéresse à la question d'un point de vue littéraire, mais c'est pas un terme avec lequel je suis très à l'aise, en fait. D'abord parce que je dis dans le livre, être du côté des bourgeois, ça, non. j'en ai honte, je voulais pas l'être. C'est-à-dire qu'il y a une certaine célébration dans certaines œuvres de transfuge qui moi me gênent, puis un manque de critique sur la culture d'arrivée, notamment chez Édouard Louis et tout ça, dont je suis assez critique, là, en fait, et puis que je veux absolument pas reproduire. En fait, c'est ça. Oui, il est question de mobilité sociale, puis un peu par hasard, il est question d'ascension sociale, parce que pendant le trois quarts du livre, elle est encore très pauvre, là, cette narratrice-là, là, qu'on se le dise. Bon, elle a 4-5 jobs pour boucler les fins de mois, elle est avec sa fille, elle vit en coop et tout ça. Elle est donc très proche de quartiers que ne fréquentent pas les bourgeois, cela dit, là. Mais à un moment, il faut quand même aussi assumer. Il faut assumer que ben j'ai plus le revenu que j'avais, là. Ça, je veux dire, je peux pas non plus prétendre que je suis encore précaire alors que je ne le suis plus. Donc il faut à quelque part que j'assume cette mobilité sociale ascendante, ce que je fais. J'ai pas envie non plus de le crier sur les toits, parce que c'est pas de ça que je suis fière. C'est-à-dire que je suis fière de pouvoir être là avec les étudiants et étudiantes. Je suis fière de tout ce qu'on a dit, de ce que je peux de ce que je peux faire, de ce que je peux apporter à vraiment avec la petite portée que j'ai, parce qu'il ne faut pas non plus grossir notre importance, là. Mais de ça, je n'ai pas honte. Mais disons que l'ascension sociale, je pourrais m'acheter, je ne sais pas, moi, des vêtements, des souliers griffés. Maintenant, oui, effectivement, j'ai le salaire pour le faire. Ça ne m'intéresse pas, mais alors là, pas du tout. Puis cette célébration, alors là, de l'ascension sociale qui célèbre par la bande la méritocratie aussi, là, j'en suis très critique. Alors, quand la maison d'édition me dit « Hey, mais on pourrait peut-être... Hey, c'est la mode, on pourrait peut-être vendre le livre comme ça », puis là, ils m'ont pas vraiment dit ça, mais disons que quand même, on a eu quelques discussions. J'ai fait « Mais il n'y en a pas question. je vais pas défendre le livre comme ça. J'ai pas envie. » Puis de toute façon, oui, il est question d'ascension sociale, mais c'est tellement pas... ou de mobilité sociale, comme tu disais, mais c'est pas non plus central. La mobilité sociale, elle est aussi beaucoup dans le voyage. Tu sais, je voulais garder, j'étais comme, ben si on me parle de la mobilité sociale, ça, je suis prête à le défendre, parce qu'elle est nomade, cette narratrice-là. C'est incroyable qu'on parle de nomadisme. C'est tellement, mon Dieu, c'est tellement daté. On dirait que, tu sais, il n'y a plus personne de nomade, là, puis hey, je dis ça, puis il y a évidemment des grandes populations sur la planète qui le sont, mais je dirais que c'est quelque chose qui, en Occident, et je sais pas, et comme il y en a presque plus. On n'a plus cette vie-là. Il me semble que dans les années 70, les hippies, il y avait quand même un imaginaire, tu sais, on the road, Kerouac, je sais pas, tu sais.
Oui, moi,
il y avait quelque chose.
Les passages au jeu, au passé simple. de la voyageuse, il me faisait penser à vraiment, il y avait quelque chose de dater, mais au sens de nostalgique, là, dans un vraiment comme une patine magnifique, là, pas comme dater que le texte est vieux, mais au sens où je me disais, ah, c'est, on retrouve pas vraiment ça dans le très contemporain, ce type de voyageuse-là, prête à se livrer, tu sais, à la rugosité du monde. Puis c'est pour ça, moi aussi, que j'étais très attachée aux parties de récits de voyage, là, peut-être aussi, mes débuts de lectrice, tu sais, qui se retrouvaient là-dedans, dans cette espèce de plaisir-là. J'ai trouvé ça beau. Puis quand je parlais de mobilité sociale, c'est ça, le récit, j'ai dit que c'était le livre de ton embauche, mais c'est pas du tout ça. La narration est pas centrée sur l'embauche à l'université, là. C'est quelque chose qui arrive. Puis quand je parlais de ça, c'est aussi au sens où la narratrice est très consciente de ce qui se passe dans le quartier où elle habite. Elle a comme aucune intention de se protéger. Elle est affectée par le monde.
Moi, j'en suis encore à me demander si c'est un problème. Non, mais pour vrai, mais tu sais, écoute, on enseigne à l'UQAM, on enseigne aux centres-villes, ce qu'on voit autour tous les jours. Tu sais, l'UQAM est dans un endroit, dans un des quartiers les plus difficiles de Montréal. C'est incroyable ce qu'on voit, là. Je veux dire, je pourrais écrire un autre livre, là, sur qui est traversé des visages qui m'habitent encore tous les jours quand je viens à l'UQAM. Puis j'ai étudié ici, hein, mon bac, ma maîtrise et tout. Je savais que ça allait être comme ça. Il n'y a rien de nouveau, là, tu sais, dans le sens que ça fait longtemps que je côtoie le quartier des spectacles, ou enfin cette partie-là de la ville. Quand je me retrouve dans des quartiers, et c'est nommé dans le livre, quand je me retrouve dans des quartiers où il y a très peu de gens dans la rue, où j'ai l'impression que tout est plus lisse, que les gens sont beaux, tu sais, que mon Dieu, tout le monde est beau ici, tu sais. Tout le monde a de belles dents, tout le monde, tu sais, les gens sont moins ridés, les gens sont bien habillés. Quand je me retrouve dans ce genre de quartier, je me sens pas chez moi. J'ai l'impression d'être... je sais pas, ouais. J'ai pas l'impression d'être chez moi. Est-ce que c'est lié à la culpabilité dont je parlais tout à l'heure, de la mobilité ascendante? Est-ce que c'est lié à mon origine, à ma famille, à mon père, le taxi, tout ça? Écoute, j'ai aucune idée, là. C'est peut-être avec mon psychanalyste que je vais... que je vais...
Mais tu le traites ou tu en... En fait, tu l'utilises... dans comme matériau littéraire, puis c'est pas la culpabilité nécessairement, là, mais toutes ces questions-là. Tu choisis l'autofiction, puis tu choisis l'autofiction depuis longtemps. Puis je pense que tu as commencé avant que le mot redevienne... Je pense qu'il y a eu une période... puis là, j'essaie de me situer, là. Je parle pas du moment très violent là, où Nelière quand fait paraître ses premiers livres, mais ça a pris beaucoup d'années avant que le terme soit pas péjoratif. Puis il est encore des fois aujourd'hui, mais c'est vraiment plus doux, là. Ça s'est vraiment calmé quand même. Mais j'ai l'impression que tu l'as revendiqué, tu as commencé à le revendiquer puis à le garder, puis tu y tiens, puis... Moi, je suis quelqu'un... j'utilise beaucoup le mot non-fiction. T'as des fois des remarques, tu sais, dans l'ouverture de Entre l'île et la tortue, tu dis « Tous les noms ont été changés, sauf ceux des personnes décédées qui ne peuvent plus raconter leur histoire. » Puis ça aussi, ça fait... Pour moi, ça fait très démarche documentaire, non-fiction. Puis en même temps, je comprends l'attachement à autofiction. Qu'est-ce que tu y trouves? Qu'est-ce qui... Pourquoi garder autofiction? Puis qu'est-ce que tu trouves dans la part de fiction, de autofiction qui te plaît ou qui te permet de faire quelque chose que tu pourrais pas faire autrement?
C'est-à-dire que j'aime le brouillage. Dans autofiction, il y a un certain brouillage. Et moi, j'aime ça. Et ce que tu viens de lire, là, l'extrait, c'est-à-dire que c'est même pas un extrait, c'est ce qui précède oui. Le roman, là, c'est comme un peu la remarque qui précède le roman. Je l'ai mis là parce que c'est vrai, parce que les personnes décédées ont gardé leur nom dans le roman. Mais c'est aussi une remarque piège, parce que ça sous-entend qu'alors tout est vrai.
Oui, parce que c'est comme le début d'un article, les noms ont été changés pour préserver l'identité des personnes.
Ce qui est faux. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont complètement inventé dans ce roman-là. Je pense notamment au personnage de Coralie qui n'existe pas, qui est un mélange de plusieurs amis autour de remarques qu'une m'a faites, l'autre a fait telle autre remarque. Coralie n'existe pas. Puis il y a d'autres personnages dans le livre qui sont comme ça aussi. Donc là, on est dans la fiction. Et j'utilise comme ça des ressorts romanesques. Donc le mot fiction dans autofiction, moi, me plaît. Après, l'histoire de l'autofiction, j'y suis quand même aussi attachée parce que, bon, c'est un terme, on le sait un peu, qui vient de Serge Dubrovski, qui lie l'histoire de l'autofiction à une histoire de la culpabilité du survivant, de la survivante, de la Shoah. Pas que je sois attachée à cette origine ancrée dans la judéité, mais quand même, la dette... dont parle Dubrovski, la culpabilité dont parle Dubrovski, le fait qu'il faut payer de son propre nom, je le cite dans le roman, cette histoire-là, sans m'en revendiquer complètement, je la charrie. Mm-hmm. Mm-hmm. Et je l'assume. Parce que, c'est ça, j'ai l'impression de m'inscrire dans ce sillon-là.
Parce qu'il y a un risque aussi dans le fait de... Parce que, tu sais, j'entends le mot culpabilité, mais il y a aussi, tu dis payer de son propre nom, il y a une prise de risque qui vient avec l'autofiction quand même.
Mais oui, bien sûr. Comme bon, là, il est quand même question aussi dans le livre de la maladie. C'est-à-dire que jusqu'à quel point mes collègues, les gens autour de moi qui allaient lire, donc il y avait une prise de risque. À ce niveau-là, qu'est-ce que j'allais dire, jusqu'où je voulais dire, je voulais parler, par exemple, de la maladie. Mais il y a aussi, en disant, je ferai pas semblant que ce n'est pas moi. Et ça, disons qu'entre mon ennemi Nelly et entre l'île de la tortue, entre les deux romans, il y a quand même une prise de risque accrue, je dirais, avec ce nouveau roman-là, où là, finalement, la narratrice, elle est complètement nommée, là, Karine, Madame Rousseau à un moment et tout. Donc, il n'y a plus d'ambiguïté possible. Cela dit, comme je dis à ma fille, il faut quand même le dire à l'entourage, en même temps, c'est pas maman, c'est pas moi, c'est pas toi. Et elle a très bien compris, elle a 16 ans, mm-hmm. elle a très bien compris qu'il est question d'elle, mais en même temps que c'est pas elle mm-hmm. Qui est question de moi, mais qu'en même temps, c'est pas tout à fait moi. Je pense souvent la version pire de moi-même. Moi, l'autofiction, ça me fait... tu disais, je suis quand même quelqu'un d'assez... d'assez gay dans la vie. Non, mais j'aime bien rigoler. Je suis une ricaneuse. Non, mais c'est vrai, je pense, en tout cas. Mais tu sais, je suis pas tout le temps joyeuse, mais quand même, je pense être assez... enfin, j'aime bien rire. Dans mes livres, je suis un peu plus sombre. Là, c'est une partie un peu plus... ouais, là, je me laisse aller, en fait. J'ai pas besoin... peut-être d'être lumineuse. Je pense que la narratrice, elle refuse d'être lumineuse. Elle refuse d'être ça. Surtout dans la maladie. Elle dit, c'est pas vrai que je vais être lumineuse jusqu'à dans l'antichambre de la mort, là. Je vais être sombre. Puis, ben, comme... assumer. Puis, pour moi, la littérature, elle peut faire ça. Elle doit pouvoir faire ça. Après, est-ce que le lectorat a envie toujours de nous suivre là-dedans? Je comprends que pas tout le temps, mais enfin, la littérature, pour moi, doit pouvoir, je répète, doit pouvoir faire ça.
Tu parles d'une prise de risque en lien avec la représentation de la maladie dans le livre. Moi aussi, j'ai écrit un peu sur la maladie, puis comment je dirais ça? Pour avoir écrit sur le sujet, j'ai senti que tu choisissais très clairement où disons que tu circonscrivais l'information que tu allais donner à tes lecteurs, à tes lectrices, hein, que tu choisissais ce que tu nous donnais, puis que oui, il y avait une prise de risque, mais que c'était aussi... Il y avait aussi une ligne que tu dirais pas tout. Je peux me tromper, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Moi, j'ai été bouleversée par ça, mais j'ai été d'autant plus bouleversée de sentir que on était sur peut-être, tu sais, qu'on voyait seulement une partie de l'iceberg, tu sais. Puis je sais pas, tu sais, est-ce que l'autofiction, est-ce qu'il y a pas aussi une... Est-ce que la fiction permet pas aussi de se protéger un peu? Ou est-ce que, tu sais, les limites du livre permettent pas de se protéger un peu? De la meilleure façon.
Ben oui. Puis tout à l'heure, quand tu parlais de mon ennemi Nelly, tu disais qu'il y avait de la magie. L'incorporation d'éléments magiques à l'intérieur de l'autofiction dans mon ennemi Nelly était clairement pour me protéger et protéger ma fille. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, étant donné qu'il était question... d'elle petite. Moi, j'écrivais, elle était toujours petite et j'ai beaucoup travaillé ces questions-là par la suite parce que, bon, je m'intéresse aux questions éthiques entourant l'autofiction parce qu'on pense dans l'autofiction que ce n'est que de soi qu'on parle. C'est faux! On est toujours en train de parler des autres. Et puis, nos étudiantes, là, je suis sûre que tu en sais quelque chose, tu le vois dans tes ateliers, parlent souvent de la famille, vont parler parfois de leurs parents, mais moi, en l'occurrence, je parlais de ma fille. Donc, on parlait du rapport d'autorité, là, tantôt. C'est pas la même chose parler de sa mère, parler de ses parents, que de parler d'un enfant. Mm-hmm. Cet enfant-là n'a absolument rien choisi d'un point de vue éthique. En tout cas, il faut y penser. Et je prétends pas avoir réglé la question. Mais ça, pour dire que le magique, à ce moment-là, obligeait le lectorat à décoller, si tu veux, de la lecture littérale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, elle a des hallucinations, le Nelly Arcand est morte, mais elle la voit dans les sous-sols de l'UQAM. Est-ce que c'est une psychose et tout ça? On le sait pas, là, le doute plane un peu. Mais à partir du moment où on se rend compte que, OK, non, ça se peut pas, il peut pas... je veux dire, les traces dans la neige ont pas disparu, c'est pas possible dans la réalité. À ce moment-là, on met la parole de la narratrice en doute en disant, mm-hmm. Ah oui, OK, dans le fond, elle est pas obsédée par Nelly Arcand, c'est pas Karine Rosso qui nous raconte sa thèse. Dans Entre l'île et la tortue, étant donné que l'élément magique n'était pas là, j'ai utilisé d'autres sorts romanesques, mais le risque était plus grand. Le risque était plus grand qu'on m'associe complètement. Mm-hmm. Et pas juste le lectorat en général, mais mon entourage, tu sais, ma mère, mm-hmm. mon chum, ma fille qui est maintenant à l'âge de me lire, tout ça, là, je voulais un peu, oui, effectivement, les protéger. Puis tracer une ligne sur ce que je dis, ce que je dis pas.
Oui. C'est drôle. L'autofiction, c'est aussi un rapport sur le temps, hein, parce que c'est... connecter, c'est comme, c'est prendre des éléments qui sont vrais dans le temps à un moment donné, puis travailler à partir de ça pour écrire. Mais c'est les, on est des êtres qui, on change, hein. Le, c'est pas des, c'est pas, il y a pas de pérennité, là. On est constamment en train. Fait qu'il y a quelque chose aussi de d'une attention au temps, hein, dans entre l'île et la tortue. Il y a quelque chose par rapport à le temps de l'identité, la durée, le retour sur soi que j'arrive pas tout à fait à mettre en mots, mais je pense que dans le jeu de pronoms, t'arrives à nous faire sentir ça. Puis je pense que c'est très perceptible dans ce livre-là aussi, qui est quand même associé à la pandémie, qui capte une certaine époque, tu sais, à quelque chose de commun aussi.
Puis quelle temporalité on a vécu incroyable avec la pandémie, c'est-à-dire que la temporalité... Moi, j'avais l'impression que le temps s'effondrait, que les journées devenaient tellement longues, puis en même temps, t'as pas le temps de rien faire, là, parce que, je veux dire, t'as trois repas, puis t'as les collations, puis tout le monde est à la maison, puis il y a le foot qui joue en toile de fond tout le temps, puis bon, il y a tout ça. Moi, j'insiste beaucoup pour qu'on continue à parler de la pandémie. Je trouve qu'on l'a évacué trop tôt, puis c'est comme si on le met... On est toujours dans cette espèce de culture de l'effacement. Là, on essaie toujours d'effacer les choses dans la société en général, mais on le fait encore avec la pandémie, alors qu'il y a une brèche temporelle qui s'est ouverte. Et puis que j'ai essayé de... Dans laquelle j'ai essayé de m'engouffrer, en fait, c'est vraiment ça. Ce qui fait que c'est assez anxiogène pour le coup, mais c'est parce que c'était la pandémie, elle était anxiogène. J'ai voulu recréer ça, mais je ne l'ai pas écrit pendant la pandémie, ça a été écrit complètement après. Hein. Mm-hmm. J'avais quand même... C'est-à-dire, j'étais sortie là, de la pandémie. Mais qu'est-ce que je voulais te dire par rapport au temps puis par rapport au jeu des pronoms? Mais c'est ça, là, je reviens, là, je veux pas non plus être trop geek, mais il y a certains romans qui déjà jouent sur ce jeu de pronoms pour parler de deux temporalités. Tout à l'heure, je parlais de Nathalie Sarraute, mais dans Enfance, il y a comme deux narratrices, c'est pas comme ça que je les appellerais, mais il y en a une qui est au-dessus, hein, qui s'adresse à l'autre au-dessus. Je pense à Nancy Houston aussi, a fait ça plusieurs fois dans ses essais, dans ses romans, de s'adresser comme à elle comme jeune femme, elle s'adresse, quand elle parle d'elle comme jeune femme, elle s'adresse au-dessus. Donc, effectivement, moi, c'est l'inverse, là, c'est-à-dire qu'au présent, elle se parle au-dessus, puis tout ce qui se situe au passé est au jeu. Mais peu importe, c'est-à-dire qu'effectivement, ce jeu-là des pronoms me permettait de montrer, c'est-à-dire de souligner ces temporalités différentes. Et dans le voyage, la temporalité compte. Complètement différente parce que les semaines passent, mais il n'y a rien qui l'attend. Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Je veux dire, elle est adossée sur le mur de la grange. En voyage, qu'est-ce que tu fais? La temporalité, elle devient complètement éclatée en voyage. Elle est à la fois omniprésente puis elle disparaît.
Mais c'est pas un peu... Moi, quand j'enseigne le récit de voyage, je commence tout le temps en disant comment un récit de voyage, c'est... Ça risque d'être plate. Non, mais... Non, tu sais, Charles au marché, on a cherché où dormir, la caravane est repartie, un chien est venu... Je veux dire, quel ennui, là. Tu sais, je veux dire, le fil des jours jusqu'à notre mort, tu sais. Oui. Et pourtant, tu sais, justement, il y en a évidemment... Et je l'enseigne parce que j'aime ça, là, parce que... Mais il y a le risque, en effet, que ce soit très plate, un récit de voyage. Puis ça me permet de te poser une question. C'est un page-turner. Tu sais, tes livres, là... Non, mais c'est vrai, les gens, ils...
C'est en bêche, ici.
Non, c'est vrai. Puis c'est pas... À travers tout ton rapport aux lectures puis à la théorie, je pense qu'on le mentionne peut-être pas assez souvent. Tu sais, il y a une écriture qui avance avec toi. Tu sais, dans Mon ennemi Nelly, moi, je parlais de quelque chose, d'un sort qui était jeté, d'une forme de magie, parce qu'il y a un suspense dans tes livres. On sait pas toujours où il se situe, où est-ce que la question se situe de l'intrigue, mais il y a un suspense. Puis je pense que c'est important pour toi quand t'écris.
C'est super important.
C'est ça, hein? Tu ben veux pas qu'on s'emmerde.
Mais non, je veux pas qu'on s'emmerde. Mais c'est aussi, je pense, en fait, il y a une amie qui m'a dit ça, puis qui était partie à rire quand j'avais fait la réponse. Elle a dit, tu penses-tu que c'est parce que t'as tellement lu de romans policiers, puis t'as tellement lu, tu sais, moi, je suis rentrée en littérature, comme beaucoup de gens, par Agatha Christie, là, par la littérature policière. Non, mais c'est vrai. Puis quand je lui ai dit ça, elle a dit, oh, mais c'est pour ça que t'écris comme ça. Puis elle riait, puis je dis, tu penses-tu? Penses-tu vraiment que c'est pour ça? Mais écoute, je sais pas. Mais oui, c'est important pour moi. C'est important pour moi qu'il y ait une intrigue. Je suis de cette école-là. En même temps, il a fallu que j'accepte dans Entre l'île et la tortue que l'intrigue allait être ténue, puis que il y avait des endroits où volontairement, j'accepte qu'on... Je prenais le risque que le lectorat décroche. Il fallait que je l'assume. Parce que si je voulais tenir absolument cette tension-là, je serais passée par trop vite sur certains moments. Mais oui, c'est important pour moi. Puis là, c'est technique, là, mais j'utilise beaucoup de prolepse. J'utilise, tu sais, des façons d'annoncer ce qui s'en vient.
Constamment. C'était vrai aussi dans Mon ennemi Nelly. Oui. Je ne savais pas que...
Oui. Et ça, c'est un procédé que Nelly Arcand utilisait beaucoup. Donc là, j'ai pu l'étayer là, dans ma thèse. Pourquoi j'utilisais ça, etc. Mais Nelly fonctionnait comme ça. Elle, comme lacanienne, hein, elle pensait que, par exemple, elle pensait que la culpabilité ne découlait pas de la faute, mais que la faute découlait de la culpabilité. Donc, on a cette... Hein, que la culpabilité précédait la faute. Il y a quand même un certain déterminisme, pas tout le temps, mais dans la psychanalyse, il y a cette idée-là un peu déterministe qui extrêmement romanesque. T'sais, si on l'utilise pour un roman, oui. C'est merveilleux. Parce que tout est déjà écrit. T'sais. Freud qui nous dit « Tout se joue avant 5 ans », c'est pas vrai, il a jamais dit ça, mais on dit qu'il a dit ça. Là. Tout se joue avant 5 ans. C'est à la fois effroyable, puis en même temps, pour un romancier, une romancière, c'est merveilleux. Parce que c'est comme si tout était déjà tracé. T'sais. Fait que voilà. Mais je rigole un peu avec ça. Mais c'est aussi très... pour le coup, il y a quand même quelque chose de très, qui vient, d'après moi, de toute la littérature latino-américaine. Il y a quand même quelque chose dans cette idée-là du destin, là, de la métafiction, de l'idée de que tout était écrit, on se perd dans des labyrinthes. C'est quand même très borgésien, là, tout ça. Là. C'est Cortázar, c'est Sabato. Là, ça, je peux pas dire que j'ai inventé tout ça. Là.
Puis là, tu parles de Lacan, tu parles de... Je suis pas capable de le dire avec le bon accent, mais de Borges, tu parles de Sabato, sur qui tu as travaillé pendant ta maîtrise, si je me trompe pas, et sur VLB, sur Victor Lévy-Beaulieu.
Oui.
T'as un amour de... Et des grandes lectures de la théorie aussi. Là, t'as cité plusieurs noms pendant notre entretien. Puis en même temps, tu nous dis, c'est important pour moi quand même, tu sais, je viens d'Agatha Christie, je veux oui. que... C'est qui dans ta tête, ta lectrice ou ton lecteur?
Ah, ça c'est... Écoute, je me suis déjà posé la question, mais j'ai pas vraiment la réponse. Parce que... Je sais que c'est quand même exigeant, que mes livres sont quand même exigeants. Je suis souvent surprise de dire « Ah oui, t'as aimé ça? » Oh mon Dieu, je pensais pas. Enfin, j'ai à la fois quelqu'un en tête et à la fois pas du tout. Je sais pas. Comme je te dis, ça fait longtemps que je me pose cette question-là, puis j'ai pas tout à fait la réponse. J'ai l'impression que je me situe un peu... entre deux, hein, mon Dieu, quelle surprise encore. non, mais tu sais, c'est ça. Il y a quelque chose, j'ai pas honte d'introduire de la théorie dans mes livres. Au contraire, moi, j'aime ça, les livres qu'ils font. Je me gêne pas là, pour en faire. En même temps, oui, j'ai un côté très pop. Là, je veux qu'il y ait une intrigue. Là, tu me dis c'est un page-turner, ça me fait full plaisir. Vraiment, je suis comme, ouais, ça me fait vraiment plaisir. Je suis comme, OK, ça, c'est réussi, yes! Non, mais voilà, ouais.
Puis je pense aussi qu'à travers, je parlais de ton amour pour la théorie, moi, il y a des moments, tu sais, où la littérature, je regarde ça, puis je suis comme, j'ai des grandes journées d'amour, puis j'ai des grandes journées de découragement, comme sans doute la plupart des gens dans le milieu, dans le grand milieu de la littérature, mais... Tu sais, il y a des moments où tu te dis, ah, t'es qui pour écrire sur sur les autres, tu sais, as-tu le droit de faire ça? Il n'y a jamais de moment où on sent que tu perds foi par rapport à la littérature. C'est pour ça que je parlais de ton amour de la théorie. Tu sais, moi, il y a des moments où des fois, là, les gens me sortent une citation, puis je suis comme, hey, baba, tu sais, j'ai comme, non, c'est pas la journée pour me sortir une citation. C'est pas, c'est. Alors que quand on te lit, quand on t'écoute parler, il y a comme, il y a une foi dans, tu sais, le mélange de théories dans la démarche qui fait que, tu sais, tu vas aller lire, justement, tu sais, Sabbat et VLB, tu sais, tu mets des choses ensemble, puis tu y crois. Puis j'ai trouvé ça très beau, ça, j'ai trouvé ça, je trouvais que ça réenchantait aussi les possibilités de la littérature. Puis il y a quelque chose dans ta démarche, tu sais, à l'intersection de la théorie puis de la création, qui me semblait très cohérent et très beau, puis qui est difficile aussi à faire parce qu'il y a comme des appareillages théoriques qui sont faits pour certains corpus. C'est très occidental, tout ça. Puis c'est difficile de mélanger les choses. C'est pas tout le monde qui accepte ça facilement.
Mais c'est peut-être là, effectivement, je disais que c'est un de mes héritages. Je pense vraiment latino-américain. Je pense que c'est cet arrimage entre la théorie et la fiction, c'est vraiment... c'est justement ces grands maîtres-là, Sabato, Borges, c'est ça qui l'ont fait. Moi, ça m'a tellement plu que je me suis dit, oh mon Dieu, ah, oh, c'est possible de faire ça. Donc ça, vraiment, je m'en revendique, puis je rends César ce qui appartient à César, là, d'après moi. Mais oui, on m'a beaucoup parlé de cette foi en la littérature que je perds pas. Et puis, il y a plusieurs personnes qui ont lu le livre qui reviennent là-dessus. Et puis, je pense que c'est pour ça que je parle autant du Quichotte, en tout cas dans toute la première partie du livre. Parce que le Quichotte, il est malheureux. Bon, mais il croit tellement en la littérature, puis il est tellement déphasé. Mais moi, je me reconnais beaucoup dans le Quichotte. Je me reconnais dans cette quête-là romantique. T'sais, il perd pas la foi. Le Quichotte, au risque d'être ridicule face à la société qui l'entoure. Puis sa lecture du monde est complètement anachronique. Et tu sais, ça colle pas, ça peut pas coller parce qu'il lit toute la réalité avec les lunettes de la littérature. Puis bon, c'est pas possible. Mais je me reconnais là-dedans. Et j'ai envie... En fait, oui, moi, je la défends, la littérature. Je dis même souvent que je suis mariée avec elle. Je sais souvent cette métaphore-là parce que à chaque fois qu'on a voulu, c'est-à-dire m'éloigner d'elle, je reviens, je la défends bec et ongle. Tu sais, je m'attriste. Je m'attriste des gens qui délaissent la littérature pour regarder des séries, pour... tu sais, je m'attriste de ça. Puis en même temps, tu sais, qui suis-je? Je veux dire, les séries, c'est de la fiction. Puis hey, on a besoin de fiction dans le monde, mais je pense qu'on a besoin de fiction pour vivre. Mais pourquoi ne pas consommer de la fiction avec une tablette, là? Tu sais, là, c'est peut-être moi, là, qui est psychorigide, puis qui dit non, non, le livre papier, puis c'est donc bien mieux. Non, non, mais tu sais... mais moi, j'y crois. Je pense que ça me sert quand même à enseigner la littérature, d'y croire autant. Je pense qu'un des commentaires qui revient le plus dans mes évaluations d'enseignement, puis c'est peut-être, en tout cas, à prendre avec un grain de sel, c'est « Mon Dieu, elle est passionnée!
» Moi aussi, quand je dis ça, je me dis « Ah, je sens le jugement un peu quand ils me disent ça. »
Ils me regardent, puis elles disent « Coudon, elle! Et là, là, ça doit être... Mais regarde, je dois être intrigante, là, t'sais, parce que moi, je suis là en train de parler de je sais pas, de Jovette Bernier, tu sais, La chair décevante, 1931. Moi, j'en parle avec passion. Non, mais vous comprenez pas, c'est extraordinaire.
Non, mais il faut y croire. Je pense que enseigner, tu sais, c'est faut y croire au livre, là, quand même.
Mais j'y crois. Après, tu sais, je pense pas que la littérature, elle est toute puissante. On m'a posé la question, puis j'ai dit, mais est-ce que tu crois qu'elle est toute puissante? Ah ben non, pas du tout. Parce que... justement, le Quichotte, c'est aussi le constat d'un échec, là. Je veux dire, il n'est pas capable d'aider réellement la veuve et l'orphelin. Là, il fait semblant, lui, ça lui fait du bien, mais il n'aide pas réellement. Et elle n'est pas toute puissante, donc la littérature, pas du tout. tout. Moi, ce qui me plaît de la littérature, contrairement peut-être à d'autres types d'art, mais je ne veux pas non plus les hiérarchiser, c'est qu'elle réfléchit beaucoup à elle-même. Elle est capable de penser à ses propres limites. Donc, pendant qu'elle essaie une chose, elle est capable de dire qu'elle est en train d'essayer cette chose-là, et puis bon, avec tous les processus métafictionnels, etc., elle est capable de se regarder elle-même et d'être critique, même critique d'elle-même. Donc, voilà. Puis c'est pas non plus toute la littérature qui est obligée d'être comme ça. Je veux dire, on peut tout à fait lire un bon roman. J'écrivais à une amie hier, « Ah oui, je suis en train de lire un gros roman à la couverture souple. » Tu sais?
Ah oui, oui.
C'était ça, là, la description du roman. Puis, ah, mon Dieu, que ça fait du bien. Tu sais, assez lourd pour qu'on le tienne pas avec les mains, qu'il repose sur nos genoux. Pendant, j'avais une grosse couverte. Puis c'était ça, là, t'es dans le sens...
C'était juste... Ben, c'est comme ça qu'on finit par faire un bac en littérature, là. Tu sais, ça prend une couple de gros livres à la couverture souple. Je t'avais demandé de... s'il y avait des lectures, influences, je comprends que ce ne sera pas Netflix, s'il y avait quelque chose en ce moment qui te nourrissait intellectuellement, qui venait un livre...
C'est vrai que tu m'avais demandé ça. Je m'en souviens. J'ai complètement oublié.
C'est ça, quand les profs sont... C'est des bons élèves.
Oui, les devoirs, là, trouveras-tu que je sais bien fait. Écoute, ce qui me vient à l'esprit là, c'est Annie Lebrun. Alors, Annie Lebrun est morte il y a quelques mois. Je la connaissais pas beaucoup. Je savais qu'elle avait... c'est une littéraire en partie, mais c'est aussi une historienne de l'art, une anarchiste, une malcommode, là, tu sais, vraiment. Et puis, moi, je m'étais pas trop intéressée à elle parce que je l'avais déjà vue. Elle est morte. Elle avait été invitée à Bouillon de culture avec Bernard Pivot dans les années 70. Et elle avait dit, elle a un 5-6 minutes qu'on peut retrouver sur YouTube, là, où elle dénonce les féministes et le féminisme. Elle est contre. Et c'est comment qu'elle les appelle, les staliniennes en jupon. Non, mais tu sais, fait que moi, je savais juste ça d'Annie Lebrun, puis je me suis dit, bon, mais mon Dieu, c'est pas intéressant, on va passer à un autre appel. Puis. Là, elle est morte, c'est ça, il y a quelques mois, et il y a des gens qui ont commencé à dire, ah, tu sais, des hommages sur Facebook, tout ça. C'est ça, c'est un beau côté des réseaux sociaux. Il y avait toutes sortes de clips qui arrivaient et tout ça. Puis je me suis dit, bon, je vais lui donner une deuxième chance. Écoute, je suis happée par Annie Lebrun.
Ah, ouais?
Ah oui, ben là, j'ai vraiment, à part cette histoire de stalinienne en jupon, là, qui est quand même une expression savoureuse, là, mais tu sais, je partage pas évidemment son point de vue sur les féministes, mais elle a un point de vue sur l'art, sur le gigantisme dans l'art, sur... Je l'ai écoutée parler sur la Biennale de Venise, elle est invitée à parler d'art, elle a un point de vue sur Sade qui est complètement étonnant, et puis là, tu vois, c'est ça, je te dirais pas que c'est une inspiration, tu sais, je te dis pas, ah tiens, je vais écouter un peu d'Annie Lebrun ce matin pour essayer de me mettre dans le bain, pour écrire. J'ai aucun projet, tu sais, je prévois pas faire quelque chose sur Annie Lebrun, ça fait... quelques semaines, c'est pas quelques mois qu'elle m'habite. Fait que là, tu sais, des fois, à temps perdu, je fais comme des recherches. Puis là, je tombe sur un autre truc. Puis là, tu sais, Annie Lebrun. Fait que voilà, c'est ça qui me vient en tête. Mais tu sais, peut-être qu'un jour, finalement, je vais parler d'Annie Lebrun dans un... Mais c'est pas un projet. Genre, j'ai pas...
Est-ce que c'est comme ça que tes recherches se passent? Puis là, on sort un peu de la création, là, mais j'avais pas pensé de poser la question. Mais tu sais, est-ce que t'as l'air de fonctionner comme par... petites obsessions émergentes, puis ensuite construire des objets de recherche. Mais c'est dans cet ordre-là.
Tellement. Mon Dieu, c'est ça. Moi, je dis que je tombe dans des trous, des fois. Je suis comme, là, je vis ma vie. Hop, mon Dieu, la question des transfuges. Là, c'était moi, ça m'habite. Et tout ça a commencé parce que j'ai un collègue qui m'a fait lire, qui m'a demandé d'évaluer le mémoire d'une étudiante qui parlait de l'œuvre d'Édouard Louis, de la question des transfuges et tout ça. Puis là, bien, c'est ça. Moi, je dis, ben oui. Fait que là, j'évalue ça. Bien, c'est-à-dire, je lis ça. Puis là, je suis tombée dans un trou. Je suis dans un espèce, j'appelle ça des trous théoriques. Là, je dis mais voyons cette question-là de transfuge et tout. Donc, j'ai évalué le mémoire, j'ai mis excellent là. Tiens, dans le sens que, je veux dire, c'était un très très bon mémoire là, puis vraiment qui méritait la note excellente. Mais j'ai continué à dialoguer avec cette étudiante-là pendant des mois. Et Louis-Daniel Godin, qui est notre collègue, qui a été mon voisin de bureau pendant plusieurs années. Mes premières années à l'UQAM, là, j'ai changé de bureau. Des fois, je cogne à sa porte, je disais, mais toi, qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Tu sais, dans le sens que je suis habitée par des questions théoriques que tu vois juste, qui deviennent un peu obsessionnelles. Puis après, je dis, bon, ben OK, assoyons-nous sérieusement, puis faisons quelque chose sérieusement avec ça. Mais je suis surprise, j'ai pas de plan de match, c'est-à-dire que je me laisse surprendre. Oui, voilà. C'est arrivé avec la question des transfuges. Quelle autre question? Mais la question du tu, que tu vois, qui a été une obsession pendant plusieurs années, mais qui arrivait, voilà, qui est arrivé un peu sur le tas.
Puis, je dirais que ça, en tout cas, ça définit peut-être plus ton identité de chercheuse. Il y a ton identité de libraire à laquelle tu reviens souvent, encore aujourd'hui. Moi, tu m'en parles, tu le mentionnes. Dans les médias aussi, tu en parles. C'est un rôle important, le rôle du libraire. Puis je pense que c'est un autre rapport au livre que le rapport d'édition, si on travaille en revue ou dans une maison d'édition, que le rapport à l'enseignement aussi, où on est dans, même si on le fait avec toute la délicatesse du monde, une certaine forme d'autorité, là, on impose des lectures. Alors que, bien, si vous allez dans une librairie puis que quelqu'un vous impose une lecture, sachez que vous pouvez sortir. C'est un rapport autre au livre. Puis tu y tiens encore ce rapport-là de libraire. Je sais pas si, tu sais, dans 5 ans ou dans 10 ans, je vais te reposer la question. Je sais pas si ça va être la même chose. Tu sais, l'identité de professeur est comme relativement, commence à être moins nouvelle, mais c'est encore relativement récent. Est-ce que la librairie, c'est encore ta façon d'aborder les livres. Tu parles de Annie Lebrun, puis je suis comme, ça me fait penser un peu à comment quelqu'un découvrirait le livre comme libraire.
Mais oui, j'ai dit dernièrement à la radio, il faut que je l'assume, là, mais j'ai dit libraire un jour, libraire toujours. J'ai dit ça, je le pense. Je pense que quand on a été libraire, bon, on n'est pas obligé d'être libraire toujours, là, c'est quand même... Qu'est-ce que je...
Ah, moi, j'aime ça, ton identité pour toujours.
Mais c'est pas... je le mentionne souvent avec les étudiants et étudiantes que j'ai été libraire. C'est le moment où je leur dis, OK, posez vos crayons. Puis là, je fais une aparté. Ça m'est arrivé dernièrement. Donc, moi, c'est ça que je disais, j'enseigne la littérature des femmes au Québec. C'est quoi les possibilités que, que je me mette à parler de Primo Levi si c'est un homme? Mais là, je suis arrivée, je ne sais pas par quel chemin je suis arrivée à parler de Primo Levi. Puis là, je regarde la classe, puis là, ils me disent comme, tu sais, je vois dans leurs yeux, non, tu sais, ça ne nous dit rien. Je dis, OK, posez vos crayons, là. Puis je dis, là, je vais faire ma libraire. Puis là, je me mets à parler. Alors, c'est l'histoire de... Nanana. Puis après ça, je leur dis, OK, on reprend le cours, on reprend la classe et tout. Donc, je m'autorise à remettre ce chapeau-là de libraire de temps en temps, juste parce que c'est le fun. Puis parce que... on ne sait jamais quand un livre va rencontrer notre route. Moi, j'ai adoré ce métier-là. Et j'ai encore tellement de respect pour les libraires aujourd'hui. J'aime beaucoup les libraires. J'ai mes libraires préférés dans toutes les librairies où je vais, parce que je fréquente quand même beaucoup de librairies, même si ma librairie préférée, c'est quand même la librairie féministe de Guélion. Mais, par exemple, ici à la librairie Zone Libre, qui est juste à côté de l'UQAM, je vais, comme au début de l'été, j'y suis allée, il y a Gaëlle Landreville qui travaille là, il y a Christophe, il y a Mireille, et puis je leur dis, bon, alors, cet été, qu'est-ce que vous me conseillez? Ou des fois, j'ai un livre entre les mains, ils me disent, ah, je suis pas sûre, j'ai moins aimé. Ah ouais, OK, t'es moins sûre. OK, t'sais, dans le sens, le point de vue des libraires m'intéresse tellement. Et puis, j'ai appris mon métier avec... mon métier, tu vois? Mon métier de libraire. j'ai appris cette médecine-là avec, j'ai envie de le nommer, avec Éric Simard de la librairie du Square, qui a été l'éditeur de Mon ennemi Nelly. Avant d'être mon éditeur, ça a été mon libraire. Et alors moi, je rentrais, c'est la librairie du Square toute petite, là, devant le Carré Saint-Louis. Il y en a une à Outremont, mais moi, je fréquentais beaucoup celle en face du Carré Saint-Louis. Et cette idée du libraire qui, là, maintenant, connaît tes goûts. Donc là, il sait, parce qu'il, tu sais, tu y vas relativement souvent. Fait que là, il dit, ah oui, t'as lu ça. Puis là, la fois d'après, tu dis, oh mon Dieu, tu m'as fait lire ça. J'étais, ah oui, t'as aimé ça? OK. Fait, lis ça maintenant. Il m'a fait découvrir des choses. Alors, Éric Simard, c'est lui qui m'a fait découvrir Maud Veilleux, qui était, mon Dieu, moi, quand je suis tombée dans l'œuvre de Maud Veilleux. Mais des gens comme ça, et à force de le regarder, j'ai dit, ah oui, OK, donc c'est ça, le métier de libraire. Quand je suis à mon tour devenue libraire à la librairie féministe de Gillian, j'essaie de reconnaître les clients-clientes, me souvenir de ce qu'ils avaient acheté, de me souvenir des discussions qu'on avait pour pouvoir leur conseiller des trucs qu'ils ne pensaient pas acheter, en disant, ah, si vous avez aimé ça, hâte de savoir ce que vous allez penser. Parce que si vous aimez ça, vous allez aimer ça aussi. Oh mon Dieu, quelle relation privilégiée de lecture, de pouvoir parler comme ça de littérature. Moi, je trouve que c'est un magnifique métier. L'affaire, c'est que c'est tellement un métier précaire. C'est ça qui est difficile avec... Donc, on est souvent étudiant, on fait tellement de choses en même temps. Et puis, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est pas assez valorisé, en fait.
Mais quelle joie quand même de savoir que tu as des moments libraires dans tes cours. J'avais jamais entendu quelqu'un dire « c'est fascinant, mon moment libraire ».
Ah oui, je dis « ben vous savez, moi je suis une ancienne libraire ». Là, il hoche la tête là, en disant « oui, oui, on le sait ». Fait que là je pars, tu sais. Puis en disant « puis c'est ça, à chaque fois c'est déposer vos crayons parce qu'évidemment c'est pas, ça sera pas à l'examen, prenez pas de notes là-dessus ». Mais c'est aussi parce que moi quand j'étais étudiante, puis ça c'est peut-être... Un trait des transfuges, là. Quand je suis arrivée au bac en littérature, évidemment, il y avait énormément de livres dont j'avais jamais entendu parler. Il n'y avait pas une grande bibliothèque fournie chez moi. Il y avait des livres. Mais bon, voilà, on parlait de livres dans mes cours. J'étais gênée de dire que je ne les connaissais pas et tout. Et je les notais quand même en marge. Je notais l'idiot, Dostoïevski, en me disant, ben un jour... Alors, quand arrivaient les vacances de Noël, les vacances d'été, ben je plongeais dans cette liste-là d'auteurs, autrices que j'avais écrit en marge. Et donc, je me dis, peut-être que les étudiants-étudiantes, ces moments libraires, là, il y a peut-être des noms qui apparaissent dans les marges de leurs notes, même si je leur dis de déposer leur crayon, mais il y en a peut-être... Je vois qu'il y en a qui gardent leur crayon quand je dis ça, de toute façon. Et donc, là, je me dis, mais peut-être qu'ils vont découvrir, comme moi, j'ai découvert des choses, là. Il y a des choses que, mon Dieu, puis des choses que, tu sais, je suis partie dans un road trip avec ma fille, ma famille, puis moi, on m'avait parlé de La montagne magique de Thomas Mann, mais c'est deux tomes. Tu sais, quand est-ce que tu vas lire ça, tu sais? Ça, ben, en camping, tu sais. Fait que il fallait choisir un livre, parce que bon, le poids, tout ça, on était en auto. Puis là, j'ai dit, ben je vais acheter Thomas Mann, je vais acheter La montagne magique, les deux tombes, puis c'est ça, je vais lire en camping. Parce que quelqu'un, je me souviens même plus qui, en avait parlé dans un cours, my God! Tu sais, là, j'ai fait deux voyages. J'ai fait le voyage road trip, camping et tout, puis j'ai fait le voyage de La montagne magique avec Thomas Mann en même temps. C'est complètement surréaliste comme histoire, mais non, c'est vrai, c'était des univers parallèles.
je suis très contente que la libraire infinie en toi puisse coexister avec la professeure qui est accessoirement ton métier aujourd'hui. L'entretien arrive à sa fin. Est-ce que... Là, en ce moment, bon, il y a le projet sur le transclassement, sur les transfuges de classe avec Michel Lacroix. Est-ce que, entre l'île et la tortue vient tout juste de sortir, fait que ce serait normal qu'il n'y ait pas d'autres projets, mais est-ce qu'il y a d'autres projets de création, de publication qu'il faut qu'on surveille, qui vont aboutir prochainement?
Oh là 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 là! Oui, non, mais moi, je travaille sur tout. J'ai toujours plusieurs chantiers, fait que oui, il y en a. Alors, il y en a un, là, je dis oh là là, parce que que va-t-il advenir de ce projet qui est entre les mains des éditrices en ce moment, mais quand même, il y a un suspense au sens où qu'elles retravaillent, elles vont nous demander, on ne le sait pas, mais qui est inspiré de la théorie Un dimanche, qui est une série d'essais écrit par Nicole Brossard, entre autres, mais France Théoret, bon, qui est quand même un classique du féminisme québécois des années 80. Et on a fait un remake, pour utiliser un terme français. On a fait c'est-à-dire, on s'est un peu basé là-dessus. Moi, Camille Toffoli, Chloé Savoie-Bernard, Olivia Tapiro et Julie Delporte. C'est une idée de Julie. C'est une idée de Julie Delporte. Et puis, ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus, mais mon Dieu, je sais même pas pourquoi j'en parle parce que faudrait pas en parler, en fait. Entre les mains des éditrices, quand est-ce que ça va sortir? J'en ai aucune idée. Mais oui, il y a ça. Il y a aussi, mon Dieu, je suis tombée dans un autre trou avec mon collègue Louis Daniel, de qui je parlais tout à l'heure, qui est spécialiste en psychanalyse ici au département d'études littéraires. Puis il y a une correspondance que je fais depuis maintenant 2 ans avec Louis Daniel. Mon Dieu, qui était inattendu. Ça, c'est une autre affaire. J'avais pas prévu faire ça du tout là, avec Louis Daniel, mais qui est vraiment ça. C'est un immense chantier et ça, c'est vraiment loin d'être fini. Ça, là, il nous manque plusieurs années parce que là, on va faire un séminaire ensemble qui va être féminisme et psychanalyse cet hiver. Je suis sûre que ça va beaucoup alimenter, qu'il va y avoir beaucoup de discussions à l'issue de ce séminaire-là qu'on va avoir envie de coucher sur papier. Voilà. Ça, c'est des projets de recherche. Pour la fiction, non, je suis pas rendue là. J'y pense tous les jours. Là, j'ai des idées tous les jours, mais je sens vraiment qu'il faut que je laisse ça déposer.
Je comprends. C'est bon de se reposer aussi.
Ah oui. C'est quand même exigeant écrire la fiction, mais tu le sais. C'est ça.
C'est exigeant aussi de l'avoir existé, la partie publication, c'est demandant.
Ah oui, ah ben là, mon Dieu, parle-moi pas là-dessus, parce que là, c'est ça. Non, mais c'est ça, de le défendre dans le monde, tu sais, moi, on en a parlé un peu, toi et moi, à micro fermé, mais c'est-à-dire que, tu sais, je suis restée sur les réseaux sociaux et tout ça pour accompagner le livre, je l'ai fait un temps, puis là, j'ai fermé mon compte Facebook, puis j'ai dit, bon, mais je l'ai accompagné jusque-là, tu sais, c'est ce que j'ai pu faire. J'étais supposée être au Salon du livre de l'Estrie cette fin de semaine, puis, tu sais, je préférais être avec toi aujourd'hui. Non, mais dans le sens, ça veut pas dire, tu sais, je le regarde avec beaucoup de tendresse, là, il est devant nous, là, tu sais, il est entre toi puis moi, le livre, je l'aime beaucoup, là, je veux pas du tout l'abandonner, je vais continuer à le défendre, puis la vie d'un livre est tellement longue, de toute façon, tu sais, c'est ça. C'est pas que je veux arrêter de le défendre, mais c'est que je trouve ça fatigant de le défendre dans l'espace public. C'est peut-être, j'ai pas l'impression que c'est là où je suis la meilleure. Je trouve ça plus difficile. Puis toi, on revient, tout est dans tout. C'est parce qu'on revient à mon côté libraire, parce que, en fait, je préfère parler du livre des autres. Tu sais, je préfère dire « Ah, oh, as-tu lu ça? » Puis là, mon Dieu, je suis enthousiaste. Mais tu sais, parler de mon propre livre, c'est pas ce que je préfère.
Bien, merci d'avoir fait aujourd'hui ce que tu préfères pas. Très bien, honnêtement. Puis les gens peuvent t'entendre de toute façon régulièrement. Elle restera toujours de la culture. Tu parles souvent de livres.
Oui.
Fait que s'ils veulent t'entendre pas parler de ton livre, ils auront cette joie-là. Puis il faut faire confiance aux livres. Les livres, ils se tiennent eux-mêmes. Tu sais, ils se survivent. Ils s'autogèrent. Ils ont une vie autonome.
C'est ça. Mais je tiens à dire que ça a été très agréable aujourd'hui avec toi, Charlotte. Merci pour l'invitation. C'était super.
Pour trouver toutes les informations sur le projet Terrain d'écriture, rendez-vous sur la page web du CRILC, crilcq.org. Vous pouvez m'écrire aussi sur la page Instagram ou la page Blue Sky du projet. Le visuel de la série Balado est de l'artiste Camille Lamy. Merci pour le soutien technique et le soutien à la coordination du service de l'audiovisuel de l'UQAM. Je m'appelle Charlotte Biron et je vous dis à très bientôt.